Je sais, Renaud, que vous ne vous intéressez pas particulièrement aux arts. Des langues acérées et acerbes m'ont même laissé entendre que c'est le dernier de vos soucis. Ne culpabilisez tout de même pas. Vous êtes quelques-uns à être dans ce cas. Mais enfin, vous devriez faire un petit effort, que diable. Permettez-moi de vous dire que l'an prochain, ça ne vous ferait pas de mal de consacrer, ne serait-ce qu'une ou deux soirées dans l'hiver, à des représentations organisées dans le cadre du théâtre municipal. Vous ne seriez pas déçus, je vous l'assure. Le théâtre est un loisir. Acceptez sans complexe malvenu de vous distraire. Certes, il s'agit d'un loisir culturel, je vous l'accorde bien volontiers. Mais la culture, contrairement à ce que nombre de tristes béotiens prétendent, n'est pas quelque chose de systématiquement ennuyeux. Le théâtre permet aux spectateurs de passer d'agréables moments. Il agit sur leur humeur, qui l'égaye ou qui l'attriste, selon l'œuvre proposée. Et en même temps, il offre, dans presque tous les cas de figure, des éléments de réflexion. C'est important, tout de même. Vous êtes bien d'accord avec moi là-dessus, je suppose. Sans critiquer les choix de son prédécesseur, j'estime que le nouveau directeur du théâtre municipal nous a offert cette année une saison en tout point remarquable. Ne boudons pas notre plaisir. La programmation était digne d'éloge tout autant que d'intérêt. Je vous dirai d'abord qu'il y en avait pour tous les goûts. Jugez plutôt. Ionesco, Corneille, Offenbach, Feydeau, des concerts aussi et des lectures publiques. Et tout cela était incontestablement réalisé avec beaucoup de finesse, d'esprit et de réalisme. La culture, avec un grand C, était à l'honneur, mon cher. On a senti tout au long de ces soirées la patte d'un grand professionnel. Nous vîmes les chaises. D'Eugène Ionesco, c'est un auteur dramatique contemporain. Un des maîtres de ce que l'on a appelé le théâtre de l'absurde et de la négation du langage. Les préoccupations qu'il exprime dans son œuvre portent, je vous le précise, ou je vous le rappelle, sur l'impossibilité dans laquelle se trouve l'être humain d'établir une communication authentique avec ses semblables. On avait fait appel, pour monter cette farce tragique, à un metteur en scène bien conscient du fait que tant l'auteur que ses thèmes avaient pris malheureusement un sacré coup de vieux, comme l'on dit en langage biblique. Il avait donc sagement décidé de dépoussiérer tout cela. C'est pourquoi il nous en a présenté une version complètement modernisée. Le résultat est génial. Le sujet de la pièce en quelques mots. Deux vieux, un homme et une femme, attendent chez eux un orateur et une assistance nombreuse. L'orateur aura pour mission d'expliquer la philosophie du vieux, lequel ne se sent pas capable de la transmettre lui-même. Le couple accueille les personnes invitées et les fait asseoir. Peu à peu, c'est un déferlement de visiteurs et de chaises. L'homme et la femme ne sont occupés qu'à apporter des chaises et ne disent plus un mot. Enfin, le vieux annonce que ni lui ni sa femme n'attendent plus rien de la vie et qu'ils peuvent mourir puisque leur message sera transmis par l'orateur. Ils se jettent tous deux par la fenêtre, tandis que l'orateur essaie de parler, mais sans résultat, car il est sourd et muet. D'ailleurs, les chaises sont vides, les visiteurs sont invisibles, il n'y a personne nulle part. La pièce veut montrer l'absence et la précarité de tout ce qui arrive et qui passe dans la vie. Eh bien, la réalisation de ce spectacle a été marquée par quelques idées géniales. D'abord, trouvant que tout cela était un peu longuet, le metteur a supprimé le personnage de la vieille. Il avait d'ailleurs envisagé de sacrifier aussi celui du vieux, mais il paraît qu'il s'est finalement dit que le théâtre se voulant un art populaire, les foules laborieuses n'étaient sans doute pas à l'heure actuelle suffisamment préparées à capter de tels messages virtuaux. Donc, une partie du texte était coupée, et tout ce qu'il en restait était dit par le vieux. Cela allège le tout. Le public peut garder son esprit en éveil jusqu'au baisser du rideau. Façon de parler, puisque il n'y a plus de rideau, car cela fait vieillot. Voilà, il fallait y penser. Et il fallait aussi naturellement régler le problème des chaises. Jamais un seul personnage n'ayant le temps, au cours du spectacle, de les apporter toutes. Surtout que, je vous le répète, de nombreuses coupures ont été faites dans le texte, on a donc supprimé la moitié des chaises. Ah ! Eh bien, cela aussi, il fallait y penser, Reynaud. Et ces trouvailles ne peuvent pas germer dans n'importe quel esprit. D'ailleurs, comble d'ingéniosité, ce ne sont plus des chaises. Ah ! Ce sont des bains de soleil. Cela fait plus actuel. Et on les a choisis à roulette. Ainsi, le vieux peut les installer plus vite. Cela a même permis de rajouter une scène qui détend un peu l'atmosphère. À un moment, c'est l'orateur qui entre en costume de plage 1900 en poussant un bain de soleil sur lequel est étendu le vieux. Vous voyez, un peu comme s'il était dans un landau de bébé. C'est du plus bel effet, bien dans l'esprit de l'auteur, ça. Gros succès public. La salle rit à gorge déployée. Autre chose encore. Le vieux, à la fin, ne se suicide plus. Il entre dans une maison de retraite, où il n'y a personne. Voilà l'idée de génie, Reynaud. Il n'y a personne. C'est formidable. Ainsi, le message de l'œuvre est conservé. On préserve l'idée de l'absence et de la précarité de tout. Et, en même temps, la fin est moins traumatisante pour les spectateurs. On évite le suicide. Bref, une réussite. Une soirée mémorable, quoi. N'ayons pas peur des mots. Vous avez incontestablement raté un grand moment de théâtre, mon bon Reynaud. Je le regrette pour vous. Ensuite, on nous a proposé une nouvelle lecture du Cid. Je vous rappelle brièvement le sujet de cette tragédie du Grand Corneille. Chimène et Rodrigue s'aiment. Mais Don Gomez, le père de la jeune fille, à la suite d'un différend avec Don Diego, le père de Rodrigue, insulte et gifle le vieillard. Trop âgé pour laver l'affront, Don Diego demande à son fils de le venger. Rodrigue défie Don Gomez et le tue. Chimène, qui aime toujours Rodrigue, sollicite auprès du roi la punition du jeune homme. Mais à la suite de diverses péripéties et des exploits guerriers de Rodrigue, les amoureux peuvent enfin espérer célébrer un jour une union dont ils sont dignes tous les deux. La mise en scène fourmille de trouvailles. Je ne vous en citerai que quelques-unes parmi les plus marquantes. D'abord, on sent très nettement, tout au long de la soirée, sous-jacent à l'action, l'engagement militant de Chimène envers la cause féminine. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les applaudissements fusent à maintes reprises lors de ses prises de position à l'égard de Rodrigue. Et le jeu des acteurs est si juste que, lorsque par exemple, elle demande vengeance au roi, un ourvari parcourt la salle comme une tempête qui va s'amplifiant. Toute la soirée, le public vibre. On se croirait à un match de catch. D'ailleurs, autre belle innovation. Don Gomez soufflette le vieux Don Diègue avec un gant de boxe. C'est beaucoup plus parlant que dans la version originale. Il faut dire que tous les personnages portent des vêtements modernes, t-shirts et jeans du plus bel effet. Le costumier a porté une attention toute particulière au temps des lavés et ils sont chaussés de baskets. Les lycéens se sentent ainsi plus concernés. Chimène danse au cours de la pièce, un reggae époustouflant avec Don Sanche pour attiser la jalousie de Rodrigue. Autre trait de génie encore. Le créateur s'est dit que pour le spectateur moderne, rompu qu'il est à la fréquentation des grandes fresques cinématographiques, la règle des trois unités ne peut apparaître que comme une contrainte désuète et pour le moins rébarbative. Donc, l'action se déroule sur 2 années, ce qui permet à Rodrigue de nouer une intrigue avec l'infante pendant que Chimène excite la jalousie de Don Sanche dans plusieurs décors inspirés des salons et salles à manger du Titanic. Pour les besoins de la cause, le metteur en pièce a inséré dans le spectacle quelques textes additionnels. Mais attention, attention, Corneille n'est pas trahi. Les inserts sont extraits de Cinna, de Polyeut, de Théodore Vierge et Martyr, de Rodogune et de bien d'autres de ses pièces. Ce qui prouve la grande connaissance que possède le réalisateur de l'œuvre cornélienne. Oh, je vous assure, Reynaud, ce fut encore un grand moment de théâtre. À la sortie, les cornéphiles se félicitaient réciproquement d'avoir tellement admiré. Quelques rares jocrisses émettaient des critiques, mais on les fit vite taire afin qu'ils ne ternissent pas la jubilation des connaisseurs. Le mois suivant, on nous offrit une opérette, La Belle Hélène. Là, le texte était intégral. Un unique petit rajout, une interjection prélevée dans la fille du tambour-major. Seule innovation, on avait supprimé la musique d'Offenbach. Le metteur, expliquant par un court texte inséré dans le programme qu'elle avait décidément mal vieilli. Nous eûmes ensuite une représentation d'une exceptionnelle qualité de la pièce de Georges Feydeau, Feu la mère de Madame. Un peintre sans talent rentre chez lui fort avant dans la nuit, après avoir assisté au bal des Quatre-Arts. Sa femme, qui a oublié d'être maligne, lui cherche noise, tandis que lui est pris de nausées, tout ce qu'il a avalé au cours de sa longue soirée, ayant du mal à passer. Scène de ménage. Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de Madame, vient annoncer le décès subit de celle-ci. On s'habille pour se rendre chez la défunte, coup de théâtre. au moment de se mettre en route, on s'aperçoit qu'il y a eu une confusion. Ce n'est pas la mère de madame qui est morte, mais sa voisine de palier. Cette critique sans concession de la petite bourgeoisie confine à la grande tragédie. La metteuse a bien su rendre compte de l'inanité de cette société décadente et nauséabonde qui préparait les lendemains bien sombres que nous avons connus. Le valet, pelotant d'une manière tout à fait impudique la femme du peintre raté, montre bien le peu d'estime en laquelle les oppressés tenaient la classe qui les exploitait. Les haut-le-cœur nauséeux du fêtard étalent au grand jour l'égoïsme forcené du mal et laissent entrevoir le drame qui couve. Ils sont les prémices de la lutte que déclencheront par la suite les femmes asservies. On voit bien dans cette œuvre que l'esclavage de la femme n'est dû qu'au pouvoir de l'argent confisqué par l'ignoble bourgeois, qu'il emploie d'ailleurs en quantité non négligeable pour assouvir ses instincts bestiaux les plus abjects. Cette pièce est d'un réalisme criant, Reynaud. Elle annonce 36-68. C'est une intense réflexion sur la condition humaine. On sort de là sur les rotules. Les visages étaient crispés. Je ne pouvais, quant à moi, chasser de ma pensée l'adage si sage et si vrai. L'homme est un loup pour l'homme. Et je me permets d'ajouter, Reynaud, modifiant hardiment pour les besoins de la cause, l'apophthegme multiséculaire, et grâce à la lecture que le metteur m'a permis de faire de cette pièce admirable, l'homme est un loup pour la femme. Et réciproquement. Les concerts nous ont amenés à découvrir une des plus récentes inventions en matière de musique. C'est tout simplement fabuleux. On n'arrêtera pas le progrès. Pour ne plus importuner les voisins, on fabrique maintenant des instruments silencieux. D'ailleurs, depuis quelque temps, vous ne m'entendez sans doute plus faire mes exercices de bugle. Le directeur de notre théâtre a donc eu l'idée géniale d'utiliser ce type d'instrument pour les concerts programmés cette saison. Tous les musiciens arrivent en scène avec un casque d'écoute sur les oreilles. Chacun d'entre eux va pouvoir entendre la partie qu'il joue sur son propre instrument, mais il sera bien le seul. Il ne gênera donc pas les autres musiciens. Le chef entend tout, le public n'entend rien. Mais il est ravi, car il assiste de la sorte à un spectacle de mime pour le prix d'une place de concert. Il peut, en toute tranquillité, observer les mimiques souvent cocasses des musiciens. Ainsi, je puis vous assurer que le visage congestionné d'un cornet à piston à bout de souffle vaut son pesant de salicylate. De plus, comme le public connaît le titre de l'œuvre que les musiciens sont en train de jouer en silence devant lui, il peut laisser vagabonder son imagination en pensant à ce que ça pourrait donner s'il entendait quelque chose. Plusieurs musicologues de renom pensent que cette invention va révolutionner la profession de chef d'orchestre. Ils disent que ce n'est plus lui qui dirigera les musiciens, mais que ce sont ces derniers qui, n'entendant chacun que son propre instrument, imposeront au chef ses nombreuses gesticulations frénétiques. Reynaud, n'ayons pas peur des mots, mon cher. Nous vivons une époque passionnante. Pour en finir avec mes informations sur la récente saison théâtrale, je vous dirai qu'on nous a présenté plusieurs soirées consacrées à la lecture d'extraits d'œuvres littéraires. C'est devenu très à la mode. Les spécialistes affirment que cette formule est née de la carence d'auteurs dramatiques contemporains, notamment en France. Et puis, ce sont des soirées qui se préparent facilement, puisqu'elles permettent aux comédiens de ne pas savoir leur texte. Que vous dire encore? Ah oui, ceux qui aiment le théâtre ont à leur disposition dans le hall, près de la billetterie, un rayon librairie qui offre un large éventail de pièces contemporaines. Ce qui est navrant, c'est que, allez savoir pourquoi, la plupart de ces spectacles sont joués devant des salles vides. On nous annonce déjà pour l'année prochaine la célèbre comédie de Henri Monnier, Grandeur et décadence, de M. Joseph Prud'homme. Transposée à notre époque, cela va de soi. On dit que ce devrait être le clou de la saison.